Expressing your love can look many different ways, and with the right jewelry gift from Blue Nile, it can truly sparkle. Blue Nile's collection of classic diamond jewelry makes for the kind of gift that speaks volumes without saying a single word. Or switch things up with a sapphire piece sure to spark conversation. Either way, Blue Nile's diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Express yourself with Blue Nile, the original online jeweler, at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 710 du podcast Touch en Actu. Alain Mathé, très heureux de vous retrouver pour parler de la dernière semaine de la saison régulière NFL. Ça y est, en 2023. En tout cas, à mes côtés, Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël.
Salut Alain, salut à tous.
C'est la semaine de Raphaël Masmejean et moi-même. Vous allez nous voir et nous entendre partout parce qu'on est ensemble, Raphaël. On se le disait juste avant, toute la semaine.
C'est vrai.
Aujourd'hui, demain, dans la nuit de samedi à dimanche sur 6... J'allais dire sur 6 Play. Alors oui, je m'habitue. Puis sur 6 Play, sur W9, messieurs, dames, on débarque sur la TNT. T'imagines, on va être sur la même chaîne que les Non, c'est les Marseillais ? Je sais plus.
Bah, je dirais les Marseillais, les Ch'tis, non ? Il n'y a pas les deux, même.
Je sais plus.
Bon, voilà,
on n'est pas hyper... On est pas... Si, c'est ça, c'est sur 6 Play. Ouais, c'est ça.
Eh bien, ça va trancher.
Oui, je sais pas c'est quoi le programme de avant et après nous. Ah ouais, je suis curieux de savoir c'est quoi le programme TV. Bon, je regarderai ça plus tard. Bref, du coup, on va parler de la fin de la saison régulière NFL, vous l'avez compris. Et on va parler d'une équipe qui s'est écroulée. D'abord, les Jaguars. Ensuite, on parlera des Bills qui sont qualifiés et des Packers aussi qui passent. C'est le programme des affiches de la semaine. Titans 28, Jaguars 20. Les Jaguars étaient à 8 victoires pour 3 défaites. Ils devaient tranquillement prendre la AFC Sud. Et patatras, 5 défaites sur leurs 6 derniers matchs. Dimanche, il suffisait de battre les Titans, qui étaient quand même plutôt au bout du rouleau. Eh bien, ils n'ont pas réussi. Ils ont même jamais semblé en mesure de battre Tennessee, qui a mené du milieu du premier quart jusqu'à la fin. Le score est presque un peu flatteur. Les Titans menaient 28-13 dans le troisième quart. Les Jaguars ont eu quelques occasions à la fin, mais finalement, ils ont échoué. Les regards, Raphaël, forcément, se portent vers Trevor Lawrence. Il finit à 29 sur 43, 280 yards, 2 touchdowns, mais aussi 2 interceptions. Est-ce que c'est injuste qu'on le regarde lui d'abord, ou est-ce qu'il est quand même le symbole un peu de cette faillite, quoi?
Non, il est forcément le symbole de cette faillite, parce qu'on s'attendait, après notamment la victoire en playoff l'an dernier, à ce que cette équipe de Jacksonville confirme, passe un cap, et Trevor Lawrence devait incarner ça. Sauf ça paie. Alors, pardon, j'ai un petit son qui s'est lancé en même temps, j'espère que ça n'a pas été entendu.
Non, on n'a rien entendu.
Mais donc, ce que je disais, c'est effectivement, Trevor Lawrence devait incarner ce palier franchi, sauf qu'il a eu une saison vraiment irrégulière où on n'a pas trouvé ce qu'on attendait d'un numéro 1 de la draft comme lui et un talent générationnel annoncé. Et c'est vrai que ce match, je trouve, illustre parfaitement la saison de Trevor Lawrence. Il y a eu quelques belles actions et puis derrière des ratés. Il y a cet appel de jeu qu'il change pour tenter un quarterback sneak plutôt que de donner la balle à Travis Etienne sur une quatrième tentative. Voilà, il se rate et donc forcément il prend sa part de responsabilité là-dedans. Et c'est vrai que sur cette fin de match, notamment quand même la défense de Jacksonville relance plusieurs fois l'équipe en donnant l'opportunité de revenir à égalité. Et finalement, c'est l'attaque qui cale par deux fois sur quatrième tentative. Donc t'es obligé de pointer l'attaque et Trevor Lawrence.
Ouais. Et Doug Peterson quand même un petit peu aussi, parce qu'il y a eu des choix, même dans ce match, hein, notamment, là on parle de ce match-là, 43 passes pour 23 courses. Alors oui, il y a le scénario, évidemment, ils sont menés, ils doivent lancer plus le ballon. Mais on se demande quand même pourquoi Travis Etienne a que 4 matchs avec au moins 20 ballons au sol sur l'ensemble de la saison, et les choix de jeu sur ce match-là, t'as une passe en profondeur sur 4ème et 2, t'as une passe et un quarterback sneak alors que t'es à 1 yard de la end zone, et le quarterback sneak, je peux l'entendre en temps normal, mais là, t'as un Trevor Lawrence qui est blessé à l'épaule quand même. Donc je me rappelle que les commentateurs américains d'ailleurs juste avant disent on va pas avoir un quarterback sneak parce qu'il est blessé à l'épaule et que ce serait dangereux, et ils se jettent un peu n'importe comment. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que Doug Peterson, pour le coup, sur ce match-là notamment, est pas exempt de tout reproche.
Après, justement, il me semble que c'est sur cette action quand même que c'est Trevor Lawrence qui change l'appel de jeu. Peterson appelle, appelle une passe pour Etienne et appelle une transmission de balle pour Etienne. Et c'est Trevor Lawrence qui change l'appel de jeu et qui décide d'y aller lui-même. Donc bon, mais de toute manière, ça change pas le fond du problème d'un Doug Peterson qui effectivement... Et d'un Press Taylor, je trouve, le coordinateur offensif, qui en cours de saison, on semblait un peu perdre le mojo. Il y avait eu cette belle victoire à Londres contre les Bills où on avait l'impression que Jacksonville était un peu relancé. Et derrière, ça a un peu patiné. Et comme tu le dis, il y a cette non-utilisation d'un Travis Etienne ou cette sous-utilisation qui a pu être un peu étonnante. C'est vrai qu'il y a eu aussi des blessures hein, dans les squads de receveurs qui ont peut-être un peu déstabilisé les schémas. La blessure d'un Christian Kirk a fait notamment beaucoup de mal, on sent à Trevor Lawrence, mais je te rejoins globalement, on a Doug Peterson et un coaching staff qui a un peu perdu le fil de la saison et on les a pas sentis capables de remobiliser l'équipe vers cette course aux playoffs. Et peut-être même qu'ils payent finalement le non-repos de Trevor Lawrence. Ils auraient peut-être dû le mettre un peu au repos sur un ou deux matchs avant pour bien finir la saison. Peut-être que ça a été aussi une erreur de tenter le tout pour le tout avec lui sur les 6 dernières semaines alors qu'on sentait qu'il commençait à être un peu épuisé physiquement.
Ouais, c'est vrai que bon, ça c'est évidemment toujours plus simple après coup, mais oui, tu te dis qu'à un moment, bah, est-ce qu'il aurait pas fallu dire on le met sur le banc pendant 2 ou 3 semaines pour de vrai, quitte à être au raccro ou perdre ses matchs, mais à les accrocher sur la fin. Et là, on a l'impression qu'ils ont fait le pire des deux mondes, quoi, qu'ils se sont retrouvés avec un blessé, qui jouait pas bien, ils l'ont sorti une fois, ils perdent quand même. Et voilà. Après, on parle beaucoup de l'attaque. La défense, quand même, a été problématique aussi, puisque les Titans n'avaient jamais marqué autant de points cette année. Les Jaguars autorisent sur ce match 175 yards au sol à 6,7 yards par course. Et tu disais qu'ils ont perdu le mojo offensivement pendant la saison. La défense aussi a eu vraiment une trajectoire. C'est un électrocardiogramme, quoi. Il y a eu des moments où on se disait, bon, bah, ça y est, c'est solide, Josh Allen, c'est très fort, etc. Et puis des moments où ils se sont complètement écroulés aussi. Et là, sur ce match-là, c'est pareil, c'est symbolique, quoi.
Ouais, c'est ça, effectivement. Encore une fois, il y a eu un tournant autour de la semaine 10, 11, je dirais. Enfin, après la victoire, notamment contre les Texans, où derrière, ils enchaînent 4 défaites et ils se mettent à encaisser beaucoup de points, plus d'une trentaine de points, 2 matchs de suite, contre les Bengals, contre les Browns, les Bucks. Enfin, bref, cette défense... On a un pass rush qui, en dehors de Josh Allen, n'a pas apporté ce qu'il devait apporter, ce qu'on attendait de cette saison. Je pense que ça fait beaucoup de mal à cette équipe. On a aussi, dans le backfield défensif, un Darius Williams, notamment, qui a commencé à baisser en niveau au fur et à mesure de la saison. Donc, c'est vrai que la défense a peut-être pas eu la solidité qu'on attendait d'elle. Et cette baisse de régime de la défense, couplée à une attaque qui n'a jamais trouvé le rythme, finalement, bah, ça fait une équipe un peu moyenne, mollassonne, qui se fait piéger en fin de saison. La dynamique des deux côtés du ballon était mauvaise, ouais.
Honneur aux Titans aussi, beau match de Derrick Henry. Alors, on avait l'impression que tout le monde était en mode jubilé. Hein. Derrick Henry, 19 courses, 153 yards, un touchdown. Il a fait ses remerciements à la fin. Ryan Tannehill a fait du Ryan Tannehill, 17 sur 26, 168 yards, de touchdown, une interception. Ça sentait vraiment la fin de cycle pour les vieux briscards.
Ouais, c'est effectivement surtout pour Derrick Henry, même si c'est pas impossible qu'il le re-signe à Tennessee avec un contrat amical, on va dire. Mais
ouais, il avait pas l'air parti. Enfin, il a vraiment fait ses adieux après le
match. Oui, je suis d'accord, ça ressemblait. Après, il a quand même dit c'est pas des adieux, c'est un au revoir. Bon, chacun il verra ce qu'il veut dedans. Non, effectivement, c'est une équipe de toute manière. On sait que l'an prochain c'est Will Levis au centre de cette attaque. Donc maintenant, l'objectif pour le general manager, suivant le coach qui le recrute, si Mike Vrabel est amené à partir ou pas, Faudra reconstruire cette attaque, mais c'est vrai que c'est un groupe de vétérans qui a laissé passer peut-être une chance à un moment où ils font cette finale de conférence. C'était peut-être pour eux l'opportunité de créer une surprise. Mmh. Et derrière, il leur a toujours peut-être manqué le supplément de talent pour aller au bout, quoi.
Tu le dis bien, si Mike Vrabel est conservé, on n'en a pas parlé au début de l'émission. C'est vrai que j'aurais peut-être dû le préciser dès le début de l'émission. On va pas forcément parler des coachs virés aujourd'hui parce qu'on enregistre lundi soir en plein Black Monday officiellement. Alors même si avant l'émission avec Raphaël, on se disait que justement, bon, Mike Vrabel peut-être, si Bill Belichick bouge, mais en tout cas sans l'histoire des Patriots, parce que la rumeur ce serait qu'il attend éventuellement que Bill Belichick s'en aille pour prendre la place aux Patriots. En dehors de ça, il a l'air d'avoir sauvé sa place, Mike Vrabel, si on exclut totalement New England.
Oui, effectivement, il a pas l'air d'être mis de côté par la franchise. Bon, c'est pas non plus étonnant. Il a pas un bilan mauvais avec Tennessee. Il a souvent une équipe accrocheuse, donc voilà, il lui laisse encore le bénéfice du doute, en se rendant compte que peut-être l'effectif avait trop de lacunes cette saison de toute manière pour prétendre à mieux.
Au moment où on se parle, il y a juste. Arthur Smith, ouais. Arthur. Je sais pas pourquoi je voulais l'appeler Antonio Smith. Arthur Smith et Ron Rivera sont les deux coachs virés le lundi, mais on fera le débrief complet des coachs virés dans l'émission de demain avec le reste des matchs. Là, on va se concentrer sur les affiches et on fera le complet quand on aura un meilleur panorama des coachs et que tout sera un peu plus figé, notamment peut-être pour Bill Belichick. Ça a l'air d'être le dernier suspense au moment où on enregistre. Donc, en tout cas, les Titans, eux, n'iront pas en playoff et les Jaguars non plus, j'ai envie de dire. Pour finir, sur les Jaguars, c'est la grosse déception de la saison. Ils étaient en playoff l'an dernier, mine de rien.
C'est pas loin d'être effectivement la grosse déception. Playoff l'an dernier, même victoire en playoff l'an dernier. Coach qui a déjà eu un titre. Quarterback qui était censé arriver un peu à un âge de maturité, même si c'est encore un peu jeune. C'est peut-être exagéré maturité, mais en tout cas, qui devait passer un palier. Ouais, je rejoins l'idée que c'est la déception de la saison en AFC. Mmh.
J'allais dire, il y a match avec les Chargers qui sont à 5-12 quand même,
oui,
qui étaient en playoff l'an dernier.
Oui.
Mais ça me paraît être les deux vraies déceptions. On ne peut pas parler de ceux qui ont eu des blessures, les Bureaux, les Rodgers,
oui,
c'est
ouais,
différent.
Ouais.
Les Dolphins 14, Bills 21. Les Bills, eux, donc, sont en playoff. Ils étaient qualifiés avant de jouer grâce à la défaite des Jaguars. Mais la victoire leur permet d'arracher la tête de série numéro 2, ce qui est quand même assez dingue parce qu'ils n'étaient pas qualifiés dimanche matin. Et ils se retrouvent tête de série numéro 2 dimanche soir, alors que les Dolphins, par exemple, eux, étaient déjà qualifié avant ce match. Donc ça, c'est quand même assez dingue. Mais les Bills, en tout cas, seront tête de série numéro 2. Buffalo, qui a fait quasiment n'importe quoi en première mi-temps, avec deux interceptions, une erreur de gestion de l'horloge qui les colle à 2 yards de la end zone à la fin du chrono. Mais ils ont réussi des actions décisives en attaque et en défense pour gagner après la pause. Touchdown de Deontay Harty sur un retour de punt qui les relance. Un autre touchdown de Dawson Knox. Et puis la défense qui tient bien Tua Tagovailoa en fin de match. C'est une victoire logique. C'est dur à dire parce qu'ils ont quand même fait plein d'erreurs, mais on a l'impression aussi qu'à partir du moment où ils arrêtaient de faire des erreurs, bah oui, c'était logique.
Ouais, c'est une victoire logique, effectivement, parce qu'ils semblent quand même plus forts en défense et peut-être en attaque que ces Dolphins, donc le score final paraît pas illogique, effectivement. Après, même en deuxième mi-temps où ils se redressent bien, il y a encore quelques petites erreurs. Il y a ce fumble sur une série offensive, il y a une autre série offensive en fin de match quand même où ils se ratent sur la quatrième tentative. Bon, ça peut arriver, hein, attention, mais ce que je veux dire, il y a toujours malgré tout ces petites erreurs. On n'est pas encore sur une équipe des Bills impériale. Il faut pas non plus grand-chose pour que les Dolphins puissent en sortir de ce match. Et il y a ce retour de punt, notamment de Buffalo, qui relance complètement l'équipe. Parce qu'avant le retour de punt, mine de rien, ils sortent d'un fumble, ils sont toujours menés au score 7-14. Enfin, bon, il y a quand même aussi une équipe spéciale, donc c'est vraiment une victoire d'équipe dans son ensemble. Hein. Ça fait partie de tout, donc on va pas exclure ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est il y a victoire, ils sont champions d'AFC Est, mais c'est au forceps, quoi. Ils sont ouais, vraiment allés la chercher à la dernière minute, cette couronne, et donc ils arrivent en play-off. C'est mieux d'arriver en playoff avec le siège numéro 2, tout ça, mais c'est pas les Bills aussi qui arrivent en playoff de manière costaud comme ils ont pu le faire ces deux dernières saisons, je trouve.
Ah bah, on peut même dire oui, c'est à l'arrache totale hein, sur ce match. C'est ce que je disais, c'est pour ça que je posais la question. C'est vraiment un match bizarre parce qu'ils font plein d'erreurs. Après, bon, bah oui, il gagne quand même 473 yards. C'est pour ça que je disais, à partir du moment où il s'arrêtait de faire des erreurs, c'était logique parce qu'il gagnait du terrain, ils avançaient, ils défendaient bien relativement. Parce que bon, si Miami s'échappe pas, c'est quand même qu'ils sont aussi bien tenus. Il y a que 275 yards hein, pour les Dolphins sur ce match-là, ce qui est quand même plutôt costaud hein, pour une équipe de les tenir comme ça. Les Dolphins ont le ballon que 21 minutes. Ouais. Donc ça aussi c'est quand même assez dingue. Donc les Bills avaient quand même la main sur ce truc là ils ont 128 yards au sol, ils sont hyper équilibrés, ils ont 36 courses pour 38 passes. Josh Allen est à 30 sur 38 à la passe avec 359 yards de touchdown mais deux interceptions. C'est un peu leur saison hein, d'ailleurs hein, parce qu'il y a des erreurs de Josh Allen, mais il y a aussi un Josh Allen qui est par moments hyper brillant et qui joue comme un super quarterback. Donc j'ai l'impression que c'est leur saison en fait, ce match. Raphaël, c'est un énorme potentiel, mais aussi un énorme potentiel d'erreur, quoi.
C'est ça, effectivement. C'est un match qui ressemble à leur saison, tu l'as dit. Un plafond qui semble très haut, mais des fois un plancher, pour le coup, de niveau avec des erreurs qui les tuent. La bonne nouvelle, c'est quand même, depuis plusieurs semaines, enfin depuis 2-3 semaines, on a l'impression qu'on a un Khalil Shakir et un Kincaid qui montent aussi en régime, je trouve, en nombre de réceptions, de yards, donc... Peut-être que ça y est, on se met enfin à avoir d'autres cibles pour Buffalo. Il était temps. Donc ça, c'est positif. Mais oui, sur l'impression, je te rejoins que c'est un match qui illustre parfaitement cette saison de Buffalo. Et finalement, cette deuxième place, elle correspond aussi à leur saison. On a cru un moment qu'ils n'iraient pas en play-off parce que tout tournait mal. Et puis, ils arrivent un peu à redresser la barre. Donc ça passe. Mais les play-offs devraient pas être de tout repos avec eux, quoi.
Oui, ça va être un peu tout ou rien. Après, ils ont un potentiel de dingue. Ouais. Moi, dans cette conférence là, ils vont pas être bons à prendre, quoi. Parce qu'à l'inverse, on a l'impression qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui sont un peu sur la pente descendante en dehors de Baltimore, dont ces Dolphins. Parce que là, 17 sur 27, 173 yards, un touchdown et deux interceptions pour Tua Tagovailoa. Tyreek Hill fait son match, mais au sol, ils ont que 108 yards. Et on sent que Raheem Mostert et Jalen Waddle absents, ça leur a fait du mal quand même.
Ouais, ça leur fait beaucoup de mal, surtout je trouve Waddle, parce que du coup ça concentre vraiment la défense adverse sur Tyreek Hill. Et malgré ça, il s'en sort quand même pas trop mal, hein, Tyreek Hill. Il arrive à faire ses réceptions, mais c'est vrai que du coup, on sent un Tagovailoa un peu perdu dans les autres options qu'il peut avoir. Et ce système offensif de Miami marchait avec deux très bons receveurs. Et c'est vrai que là, on sent qu'il manque Waddle. Peut-être même plus que Mostert, j'ai envie de dire, pour le coup, qui est aussi un bon duo qui permet à Devon Achane de se reposer sur certains snaps et d'avoir un duo aussi dynamique au sol. Mais je trouve que dans la palette de jeu, l'absence de Waddle est plus préjudiciable. Et on le voit depuis deux semaines. Enfin, ça manque vraiment à cette attaque. Donc je ne sais pas s'il jouera en play-off, j'avoue que j'ai pas son état blessure en tête.
C'était pas hyper sérieux, je veux pas te dire de bêtises, hein, je l'ai pas sous les yeux non plus, mais je pense qu'il devrait revenir. De mémoire, c'était pas loin, et ils ont aussi préservé parce qu'ils avaient pas non plus énormément à jouer sur ce match. Hein.
Ouais.
Enfin, ça aurait été mieux d'être tête de série numéro 2, mais...
Oui, ça t'évitait quand même d'aller à Kansas City, mais...
et, oui.
Même mais si bon, les Chiefs ont leur problème malgré tout,
c'est
tu
ça.
Vas jouer chez le champion malgré tout. C'est, bon.
C'est ça. Je suis en train de vérifier, ouais, les ligaments seraient touchés à la cheville, donc faut voir. Ça va être juste, je sais pas dit qu'il soit à fond en tout cas, même s'il est là. Ça va être un vrai point, mais encore une fois, est-ce qu'il faut être inquiet parce que mine de rien, donc cette attaque est à seulement 275 yards, je le disais, 21 minutes de possession, c'est quand même pas les standards maison. Alors la défense a un peu craqué. On sait que c'est pas la défense la plus hermétique, elle a des bons matchs, elle a des moments où il y avait énormément d'absents aussi, hein. Bradley Chubb est plus là, lui, pour un moment, mais il y avait aussi d'autres absents. Mais l'attaque, quand même, sera leur moyen de survie dans ces playoffs, donc l'avoir à ce niveau-là, c'est embêtant. Surtout que les Chiefs, en face, ce sera pas une mauvaise défense non plus, hein, en playoffs.
Effectivement, c'est embêtant, on le sentait depuis le début de la saison, ce qui permettrait à Miami de faire un run en playoffs, c'est son attaque plus que sa défense, donc si l'attaque baisse de régime... Ils ont pas la défense, à mon sens, qui leur permet de verrouiller le match et d'aller l'emporter sur des scorings très très faibles. Donc il va falloir que l'attaque retrouve un peu d'allant. On va voir si les retours de blessures peuvent changer la donne. Ouais, je suis d'accord là-dessus. C'est l'attaque qui doit être le baromètre de cette équipe. La défense, j'attends plus grand. Enfin, j'attends pas trois matchs de suite défensifs de cette équipe, verrouillage total des attaques adverses. Honnêtement, je
Ouais, ouais, clairement, clairement aussi. En tout cas, ce sera intéressant à suivre. On le disait, Bills Steelers pour Buffalo et Chiefs Dolphins en playoff. Ça va être intéressant le match-up attaque des Dolphins, défense des Chiefs, parce que clairement, ça va être force contre force à ce moment-là. Donc, ça va être un match intéressant. Ils en parleront plus dans la preview, mais nous, évidemment, on se permet d'en parler un petit peu plus, puisque vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Ce sera le match donc sur W9. Pas sur 6 play, c'est fini 6 play pour cette saison W9, et donc Raphaël et moi-même au commentaire, 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Je peux te dire que ce sera après la petite histoire de France. Attends, il y a des trucs de la petite histoire de France, et après donc 2h, et après nous il y aura Wake Up.
Ah bah ouais.
Et l'hebdo de la musique. Wake et ensuite, up. Génération Hit Machine.
Ça, ça me paraît assez cohérent, le wake up à 5h du mat.
Ça, ça me paraît aussi, ouais. Ça commence à 6h, donc je ne sais pas ce qu'ils mettront entre les deux, mais voilà. Mais donc, on se demandait ce qui y passait. C'est beaucoup de Kaamelott, La Petite Histoire de France, Scorpion, ah, il passe Ne le dis à personne le dimanche soir aussi. Voilà, j'ai pas vu, je connais pas ce film. Enfin, j'ai pas vu ce film, je connais deux noms, mais.
Le film de Guillaume Canet. Voilà.
D'accord. Ouh, on sent que
Non, c'est pas si mal, c'est pas si mal.
Non mais en fait oui, ils mettent beaucoup de La Petite Histoire de France et de Kaamelott, c'est les chaînes qui font 4 heures de Kaamelott à la suite. Donc on salue, ça fera plaisir à une partie de notre rédaction.
Ah bah il y a une fanbase Kaamelott indéniable, hein, je veux dire.
Oui, je pense qu'on en a quelques-uns, ils vont regarder Kaamelott et ils glisseront vers nous après.
Je pense qu'on ferait plus d'audimat avec un podcast Kaamelott, hein. On est en France, on a une fanbase plus élevée à mon avis. Hein.
Oui, ça c'est tout à fait possible. Clairement, je pense que clairement, si on fait un truc à la gloire de Kaamelott, ça fera un poil plus d'audience. On termine avec Packers 17, Bears 9. Les Packers qui sont en playoff dès la première saison de Jordan Love. Pour la petite histoire, Brett Favre et Aaron Rodgers ne s'étaient pas qualifiés en playoff pour leur première saison avec Green Bay. Ils avaient attendu la deuxième année tous les deux. Donc Jordan Love réussit déjà un truc que eux n'ont pas fait. On lui souhaite d'en faire encore plus qu'eux après, eux qui ont chacun un titre. Green Bay a dominé ce match dans les tranchées notamment. Aaron Jones est à 111 yards sur 22 courses, ça fait 5 yards par course tout rond. Les Bears ont été limités à 192 petits yards en attaque. La première bonne nouvelle, Raphaël, j'ai envie de commencer par la défense quand même, parce qu'ils ont souffert pendant très longtemps. Là, mine de rien, ils tombaient sur une attaque de Chicago qui n'était pas trop mal depuis quelques semaines. Alors, c'est pas un des standards de la ligue, mais ils ont enfin défendu un peu solidement.
Ils ont défendu solidement. Je trouve vraiment la bonne stat à retenir, la bonne prestation à retenir, c'est vraiment la défense contre le sol. On voyait qu'il y avait une attaque des Bears quand même qui était très très bonne ces dernières semaines sur la course. Et là, vraiment, Green Bay a réussi à verrouiller ce secteur de jeu de manière plutôt convaincante. Et je trouve que c'est toujours une bonne nouvelle quand ta défense contre la course avant les playoffs est en forme. Faudra bien sûr le confirmer, mais. Parce que un match de playoff, quand tu commences, et Green Bay le sait bien, hein, ces dernières saisons, la défense contre la course leur a causé pas mal de défaites. Je pense notamment à des matchs contre les 49ers où ils se faisaient écraser au sol et Green Bay perdait là-dessus. En playoff, verrouiller le sol adverse et se concentrer sur la passe, ça peut vraiment être une clé extrêmement importante sur la victoire. Donc là, c'est une bonne nouvelle pour Green Bay là-dessus. C'est avant tout parce que le jeu aérien, on sait que le jeu aérien des Bears est sur courant alternatif et qu'il y a quelques belles actions, mais c'était pas non plus le jeu aérien le plus. Celui qui teste le plus. Par contre, encore une fois, sur le jeu de course, là-dessus, je suis assez rassuré pour eux. Et donc, ça va être intéressant de voir s'ils sont capables de le confirmer contre Dallas.
Ouais, ça va être intéressant contre Dallas, mais encore une fois, avant ça, donc, il y avait ce match contre les Bears. Mine de rien, psychologiquement, il fallait aussi y aller, parce que c'est une équipe jeune hein, qui était en face. Et donc, Jordan Love, qui réussit un match à 27 sur 32, 316 yards, 2 touchdowns, aucune interception, en complément d'Aaron Jones. Il a fait briller encore des joueurs comme Jaden Reed, qui a 4 réceptions pour 112 yards, Bo Melton à 5 réceptions pour 62 yards, Dontavion Weeks, 6 réceptions pour 61 yards et 2 touchdowns. Moi, j'en finis plus, honnêtement, d'être impressionné par ce joueur sur cette dynamique de fin de saison, Raphaël. Il n'a pas lancé d'interception sur les 4 derniers matchs. Il est à 32 touchdowns pour 11 interceptions cette saison. Ce match, c'est encore un match très très solide pour un joueur de première année.
C'est un match.
Alors, il n'est pas de première année, mais c'est sa première année sur le terrain.
Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai un peu tendance à dire première année parce que malgré tout, c'est la première fois qu'il est vraiment sur le terrain de manière complète sur toute une saison. Donc, c'est un peu différent. Bien sûr qu'il a appris des choses sur le banc, qu'il a appris des cahiers de jeu et il y a zéro doute là-dessus. Mais après, il y a un moment, c'est la réalité du terrain aussi, et c'est comment tu gères ta poche, comment, enfin, des choses très concrètes comme ça. Et c'est vrai que Jordan Love n'a cessé de monter en régime tout au long de cette saison et de sembler de plus en plus à l'aise dans le système offensif. Le retour d'Aaron Jones fait beaucoup de bien au jeu au sol parce qu'on voyait que Dillon ne pouvait pas porter tout seul ce jeu au sol. Et du coup, le retour d'un duo permet à cette attaque de revenir, de redevenir un peu polyvalente et met Jordan Love dans de meilleures conditions. Et puis, il y a... Et puis lui, vraiment, de manière personnelle, on va dire ça comme ça, gère très bien la poche, est bon dans ses lectures de jeu, il n'hésite pas à jouer sur différents receveurs, à aller viser un peu tout le monde. Et donc c'est vraiment la preuve d'un quarterback qui prend les meilleures options. Il y a des lancers qui sont franchement superbes. Enfin, le deuxième touchdown pour Weeks ce dimanche est impeccable. La balle est placée exactement là où il faut, au moment où il faut. Non, il est en confiance, il est très bon et c'est déjà, et peu importe ce qui arrive à Green Bay, j'ai envie de dire, sur les playoffs, la saison est déjà réussie sur l'année 1 de Jordan Love, en fait. Enfin,
Ben, c'est ça.
Franchement, c'est ça, ils peuvent être contents du pari fait de la... Alors, bien sûr, peut-être qu'ils remporteront jamais de titre avec Aaron Jones, on pourra toujours refaire l'histoire, oui, peut-être qu'avec Aaron Rodgers, ils auraient pu en remporter un autre, blabla, on peut faire de la fiction, mais en tout cas, ils ont pas coulé avec ce choix, quoi.
Non, je trouve que, enfin, c'est marrant parce que Rodgers, il est parti aux Jets, ça rappelle exactement comme quand Brett Favre est parti aux Jets,
c'est
que
fou,
Rodgers fait une première saison honorable, sans playoff pour le coup, lui, mais où tu te dis, bah voilà, alors je disais 32 touchdowns, on se rend peut-être pas compte parce que les chiffres s'étaient un peu affolés ces dernières années, mais cette année, 32 touchdowns, il est deuxième en NFL.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il est juste derrière Prescott qu'on a 36, mais il est devant Purdy à 31, Goff à 30, Allen à 29, Tagovailoa à 29, donc il est deuxième meilleur lanceur de touchdown et il a pas vraiment le meilleur groupe de receveurs sur le papier au début de l'année. Hein.
Non, il a pas le meilleur groupe de receveurs. Par contre, c'est un groupe de receveurs jeunes qui a un peu progressé avec lui. Et ça, je trouve que pour Green Bay, ça peut être vraiment une super nouvelle pour la suite. C'est que les Reed, les Weeks, les Kraft et même un Watson là qui est blessé depuis plusieurs semaines, c'est quand même un groupe très très jeune. Si une alchimie vraiment se crée avec ce quarterback là, pendant 3-4 ans, tu peux avoir une escouade quarterback receveur qui ne te coûte rien. Sur laquelle tu mises pour construire le reste de l'équipe, ça peut être ultra positif par contre.
Et on n'a pas encore trop parlé de lui, mais mine de rien, le départ d'Aaron Rodgers, ça a exposé Matt LaFleur. Tu disais que la saison était réussie pour Jordan Love, valide quand même aussi le coaching de Matt LaFleur, parce que mine de rien, Rodgers râlait en permanence, c'était jamais trop assez comme ci ou comme ça, ou il n'y avait pas assez ciblé un tel, ou trop de jeu au sol, ou pas assez de jeu au sol. Bah là, force est de constater que, on rappelle, Matt LaFleur, il est un peu dans le moule des Shanahan, des McVay, etc. Bah, ça marche aussi à Green Bay, là, j'ai l'impression quand même.
Pour le moment, ça marche, effectivement. Surtout que sur les 8 défaites de la saison, elles sont clairement pas toutes imputables à l'attaque. Donc, il y a une part de la défense où c'est vrai que LaFleur a peut-être un peu moins de main là-dessus. Et je pense que c'est un de ces gros sujets de l'intersaison, quoi qu'il arrive. C'est peut-être de réfléchir à un coordinateur défensif remplaçant pour apporter un plus à cette équipe. Mais globalement, LaFleur, effectivement, sort de cette saison renforcée. C'est certain.
Ouais, moi j'ai vraiment l'impression, comme tu disais, le sujet va être la défense pendant l'intersaison. Est-ce qu'on change de coordinateur ou pas? On va recruter sûrement beaucoup là-dessus. Mais vraiment, voilà, enfin, ils ont quand même, ils finissent la saison sur 7 victoires, 3 défaites, quoi.
Oui.
Donc ils finissent sur un 7-3, 3 victoires de suite. Ils auront rien à perdre contre Dallas. Ils vont pas être bons à prendre. Évidemment, ils sont pas favoris. Personne leur en voudra s'ils perdent. Mais c'est vraiment une belle réussite. Pour les Bears en face, c'est un peu une fin en eau de boudin. Ils s'étaient un peu repris ces dernières semaines. Là, ça capote un petit peu sur la fin. Frank Reich avait l'air plutôt sauvé. Justin
Eberflus, tu veux dire?
Eberflus, oui, Frank Reich, il est pas sauvé, c'est déjà fini. Matt Eberflus avait l'air plutôt sauvé, visiblement. En tout cas, il est pas viré au moment où on se parle, et il avait l'air plutôt à l'abri. Justin Fields, visiblement aussi. Donc, c'est quoi l'axe? C'est de changer de coordinateur offensif, par exemple?
Peut-être, changer de coordinateur offensif, continuer à renforcer cette équipe. Hein. Ils ont quand même le choix du roi la draft. Hein. Ils ont le choix numéro 1, ils ont un choix numéro 9. Choix numéro 1, si en plus ils décident vraiment de garder Justin Fields, ça leur permet peut-être encore une fois de récupérer un échange, de redescendre encore un peu face à une équipe qui veut à tout prix choisir son quarterback.
C'est clair.
Bon, potentiellement, ils pourraient très bien avoir 3 choix au premier tour dans quelques mois, j'ai envie de dire. Donc, ils peuvent vraiment renforcer cette équipe, continuer à construire autour. Ils sont dans... Et pareil, s'ils ne veulent plus de Fields, ils sont en position numéro 1 pour choisir qui ils veulent pour le remplacer. Donc là, pour moi, faut, par contre, il faut réussir cette draft pour passer un palier. T'as besoin là de prendre deux joueurs d'impact, un peu comme les Texans en fait. T'as besoin de réussir une draft à la Texane. Deux joueurs qui vont apporter un plus à cette équipe tout de suite l'an prochain et qui vont lui permettre de passer un palier.
Ouais, clairement. Bon, en tout cas, ça va être passionnant. Tu le disais, ils ont le premier choix de la draft et le neuvième choix de la draft. Et ils peuvent choisir, soit quarterback, soit pas quarterback. C'est un symbole. On parlait de Jean Viré. Hein, il y a le GM des Panthers qui a été licencié juste avant l'émission. C'est un peu symbolique d'ailleurs, c'est eux qui se retrouvent en position excellente.
C'est ça. Et tu me permets de rajouter, mais en plus, dans cette équation, il y a aussi quand même la valeur potentielle d'un Justin Fields s'il décide de s'en débarrasser. S'il décide de s'en débarrasser, c'est vu l'état actuel de la ligue au poste de quarterback, c'est sûr et certain qu'une équipe va tenter de le récupérer contre quelque chose. Alors contre quoi ? Je sais pas le valoriser, mais enfin un Trey Lance c'est quand même parti pour un troisième si je dis pas de bêtises à une époque.
C'est pas faux.
Tu vois ce que je veux dire ? Justin Fields qui a fait plus que Trey Lance, tu peux peut-être encore réussir à.
Ouais, c'est pas faux.
Enfin bref, ils ont des atouts. En tout cas, ils ont des atouts pour réussir une intersaison intéressante du côté de Chicago.
Ouais, ça va être intéressant en tout cas de ce qui va se passer du côté de Chicago parce que là franchement ça va être ils ont l'embarras du choix. C'est comme ça qu'on termine l'épisode 710 du podcast Touchdown Actu. On vous le disait, demain on parlera de tout le reste de la semaine 18. Il y aura des résumés de matchs qui seront peut-être un peu plus courts que d'autres, ou ce sera peut-être surtout une ouverture vers la saison prochaine pour certaines équipes éliminées, puisqu'on reparlera pas d'elles pendant quelques temps, même si évidemment la draft arrive très très vite. Et puis évidemment on passera en revue tout ce qui s'est passé au niveau des coachs. On sait déjà au moment où on enregistre, on l'a dit, Ron Rivera et Arthur Smith, que c'est fait. Pronostic, vous rigolerez peut-être en écoutant mardi matin, mais moi j'ai l'impression qu'il va pas y avoir autre chose.
Moi mon seul truc c'est Belichick, quoi. C'est...
Ouais. Mais j'ai du mal à croire à Bill Belichick. Hein, mais je sais pas. Ça fait partie des trucs irréels qu'on croit que quand on les voit.
On avait vachement de mal à croire Tom Brady, hein, qui part des Patriots. Donc il y a un moment ça arrive. Un moment ça va arriver. C'est
vrai. Et si je dis pas de bêtises, il y a la finale universitaire dans la nuit.
Tout
après
à fait.
Qu'on enregistre, donc Jim Harbaugh aura fini et il va pouvoir discuter avec toutes les équipes du monde, hein, parce que moi j'ai commencé à sonder les rumeurs. Apparemment les Commanders l'ont déjà contacté, les Raiders sont intéressés, lui il serait intéressé par les Raiders et les Chargers, donc là s'il gagne un titre universitaire, derrière les rumeurs vont se déchaîner, ça va être quelque chose. Mais ça devient comme Belichick, j'arrive pas à croire que Jim Harbaugh va revenir en NFL à un moment.
Ça me rappelle un peu début des années 2000, mid-année 2000, la rumeur Bill Cowher qui revenait tous les ans.
C'est vrai.
Bill Cowher, tous les ans, on te disait ouais, il revient, vous inquiétez pas. Et puis au final, il avait pris sa bague, son argent à la télé, et puis la vie était très belle,
vrai.
Quoi.
C'est vrai, j'avais oublié Bill Cowher. Après, le contre-exemple, c'est John Gruden qui avait été un serpent de mer pendant longtemps et qui a fini par revenir avec les Raiders. Mais quand même mieux fait de rester à la télé, en l'occurrence.
Peut-être mieux fait de rester à la télé, ouais.
Ça aurait peut-être été mieux pour sa carrière. Merci beaucoup, Raphaël. En tout cas, on se retrouve demain.
Tout à fait, avec plaisir.
Écoute, je te laisse aller regarder quelques petits épisodes de Kaamelott pour te préparer à samedi. C'est comme ça, donc on termine le 710. On vous dit à demain sur TD Actu. Évidemment, sur le site, il y a les previews écrites des playoffs qui arrivent sur le site. N'hésitez pas à jeter un œil. Elles seront en ligne à partir de mardi. Merci à tous, à très bientôt. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TD. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes dans TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.